indique.
Bonjour, c'est un livre salutaire que nous propose notre invité Martine Storti. Livre qui va être au cœur de ce numéro d'idées cette semaine. Livre qui est un plaidoyer pour un féminisme universel. Salutaire car il nous permet de nous y retrouver dans un mouvement aujourd'hui éclaté en de multiples tendances, souvent radicales. Comme le constate en effet l'auteur, la liste est longue des qualificatifs qui désormais s'accolent au substantif féminisme. Aux anciens universalistes et différentialistes se sont ajoutés blanc, black, afro, antiraciste, islamique, musulman, postcolonial, décolonisé, intégral, conventionnel, médiatique, policier et j'en oublie, écrit-elle. Nous allons donc essayer de faire le point et de répondre à la question que Martine Storti se pose. S'agit-il d'une salutaire extension du domaine du féminisme et d'un pluralisme bienvenu, ou bien de confusion, d'entreprise de brouillard et de brouillage, de régression, de restauration, de détournement et de captation d'un mot avec un antisémitisme, voire un anté-féminisme qui se déguise en féminisme. On en parle donc dans quelques secondes et dans cette édition d'idées, nous recevrons également Audrey Célestine qui vient d'écrire un livre de portrait sous le titre « Des vies de combat, femmes noires et libres » aux éditions L'Iconoclaste. Nous vous proposons ainsi un nouveau numéro du magazine Idées, le magazine qui interroge celles et ceux qui interrogent le monde tel qu'il va, un magazine que vous pouvez podcaster. Vous pouvez aussi vous y abonner. Bonjour Martine Storti.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous avez été professeure de philosophie, journaliste et inspectrice générale de l'éducation nationale. Vous êtes militante féministe et vous venez de publier pour un féminisme universel un livre vif, tranchant, publié au Seuil dans la collection La République des idées. Vous êtes une militante féministe de la première heure, dirais-je, Martine Storti, et les choses ont bien évolué en matière de féminisme depuis les années 70.
Oui, alors la première heure, pas tout à fait, parce que contrairement à ce que ma génération pensait, en effet, au début des années 70, avant nous, il y avait eu des luttes féministes tout à fait importantes et qui avaient marqué des points à bien des égards. Je dis notre génération parce qu'en fait, chaque génération croit que tout commence avec elle. Hein. Moi, je me souviens de ce titre de la revue Partisan, « Libération des femmes année zéro », qui sort en juillet 1970, et le titre, si on y réfléchit, est complètement stupide, parce que comme si tout commençait en 1970. Non, il y avait eu des choses avant. Mais enfin, en effet, chaque génération, c'est très bien comme ça, considère qu'elle commence quelque chose. Alors, des changements, oui, bien sûr, bien sûr. Des changements dans les faits, parce qu'en 50 ans quand même, particulièrement dans un pays comme le nôtre, et pas seulement en France, la situation des femmes a quand même beaucoup changé. Et pour des femmes de ma génération, c'est-à-dire celles qui en effet avaient 20 ans et quelques dans les années 70, si je compare ce qu'était la situation des femmes dans mon adolescence, par exemple, ou tout au début de ma jeunesse, et si je la compare aujourd'hui, même si tout va pas de manière formidable, il y a quand même beaucoup d'avancées. Hein. Alors, et en même temps, moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'un certain nombre de thèmes de lutte, qui étaient les luttes des années 70, sont, et j'ai envie de dire, hélas, encore aujourd'hui, sur le devant de la scène. Prenons la question de l'égalité des salaires. Globalement, les salaires des femmes sont inférieurs de près de 30% quand même, hein, de ceux des hommes. Toutes catégories confondues, c'est toujours une question. Et puis regardons la question des violences. Ce sujet est toujours sur le devant de la scène. Et non seulement il est sur le devant de la scène comme problème, mais heureusement il faut constater aussi qu'il est sur le devant de la scène comme lutte.
Et votre livre est très ouvert sur le monde, Martine Storti. C'est aussi pour cela que j'ai voulu vous inviter. On note aussi des régressions en matière de droits des femmes. Je pense par exemple à ce qui se passe en Pologne avec l'avortement, le droit à l'avortement.
Alors,
ce n'est pas un progrès linéaire, il y a des reculs.
Voilà, c'est une situation paradoxale, si vous voulez. À la fois, en effet, il y a eu des progrès et il y a des menaces qui pèsent sur ces progrès, et au sein même, en effet, de l'Union européenne. Si on prend la Pologne sur la question de l'avortement, si on prend le discours du Premier ministre hongrois sur la question du genre, sur la question du mariage, sur sur la définition de ce qu'est la bonne famille et l'articulation d'ailleurs avec ces enjeux, avec l'identité hongroise. Donc cette façon de rabattre les enjeux de l'émancipation des femmes sur des questions identitaires sont, à mon avis, regrettables et une impasse. Mais en même temps, moi ce que je constate, et je le dis dans mon livre, le féminisme universel, d'une certaine façon, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir, parce que partout des femmes se battent. Et partout, elles mènent des combats pour, au fond, deux grands principes politiques qui sont les libertés et l'égalité. C'est ça le combat de l'émancipation des femmes, si vous voulez. Et dans un certain nombre de pays, en effet, ces femmes qui se battent sont, l'actualité hélas très récente le montre, sont soit emprisonnées, hein. Regardez ce qui est arrivé à l'avocate iranienne, oui, Nasrin Sotoudeh, qui là vient de sortir en liberté provisoire, et parce qu'elle a fait une très longue grève de la faim. Pourquoi elle était emprisonnée à Téhéran? Parce qu'elle était l'avocate des femmes iraniennes qui refusaient le voile. Regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite. En Afghanistan aussi, des femmes se battent. Hein, moi, je connais bien l'Afghanistan, parce que j'ai fait plusieurs missions dans les années 2000. Et regardez comment elles continuent le combat. Donc, c'est les deux.
Martine Storti, je vous propose d'écouter maintenant Audrey Célestine. Bonjour Audrey Célestine.
Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille et vous nous proposez ce livre qui s'intitule « Des vies de combat, femmes noires et libres ». C'est une série de portraits de femmes connues ou pas, noires et libres, pour reprendre ce titre. Quel est votre regard sur l'évolution du féminisme aujourd'hui?
Alors, moi, je pense, enfin, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Martine Storti, et en même temps, je pense, moi, j'enseigne donc l'histoire politique et sociale des États-Unis, et notamment les questions de minorité aux États-Unis, et c'est vrai que la question de ce rapport au féminisme et donc ces ajouts qui sont désignés comme des ajouts identitaires, que moi je vois un peu différemment, ne datent pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, dans le monde militant états-unien des années 70, on a énormément de réflexions de la part d'un certain nombre de féministes chicanas, de féministes africaines-américaines, sur leur place à la fois dans le féminisme et dans l'antiracisme aux États-Unis à cette période, avec des traductions scientifiques de tout ce qui se passe dans le monde militant et qui vont déboucher dans les années 80 à ce concept d'intersectionnalité qui fait très très peur en France aujourd'hui, mais qui en fait qui commence à être aussi un peu ancien. Je pense également, et je pense effectivement cette idée que à chaque génération on pense être un peu les premiers. Cette année aux États-Unis vous avez le centenaire du 19e amendement qui est la victoire du droit de vote pour les femmes, et puis on redécouvre à la faveur d'un certain nombre de travaux la place des femmes noires américaines dans ce combat, dont elles ont été, voilà, dont elles étaient assez peu visibles, alors même qu'elles ne bénéficient, elles, en pratique, de ce droit de vote que 40 ans plus tard avec le mouvement pour les droits civiques. Ce qui fait que j'ai tendance à ne pas nécessairement voir ces ajouts à la fois comme des choses récentes, elles ne sont pas si récentes que ça, et puis à voir également qu'elles ne correspondent pas tant à des enjeux purement identitaire, enfin une identité c'est aussi un mot valise, on met beaucoup de choses derrière, mais qu'à des formes de révélation dans le monde militant puis dans le monde académique du fait qu'il y a des personnes qui se situent au croisement de plusieurs rapports de pouvoir, de plusieurs types de domination, parce qu'elles ont des expériences sociales qui ne sont pas les mêmes, et que du coup ce n'est pas nécessairement une volonté de demander la différence, mais de prendre acte du fait qu'il y a des traitements différenciés qui existent dans la société.
Audrey Célestine, nous allons reparler dans un instant de cette notion clé d'intersectionnalité qui est un sujet qui fâche également. Martine Storti, je me retourne vers vous. Vous écrivez pour que l'on ait une exacte appréciation du passé, qu'il y a toujours eu, il n'y a jamais eu de pensée unique au sein du mouvement féministe. Il y a toujours eu des discussions, des tendances, des courants peut-être.
Oui, bien sûr, mais ça c'est très bien. Hein. Le féminisme, c'est pas appartenir à un parti totalitaire où il y a un comité central ou un bureau politique qui vous dit qu'est-ce que la ligne juste et où tout le monde doit penser pareil. Donc le féminisme que j'ai des années 70 en France ou ailleurs a en effet été traversé de courants, les unes mettant plus l'accent sur le féminisme différentialiste, une différence différence qui serait à jamais indépassable entre les femmes et les hommes, les autres mettant l'accent plutôt sur l'enjeu révolutionnaire, les autres mettant l'accent plutôt sur la lutte de classe, etc. Donc, le pluralisme, oui. Après, la question est de savoir si, en effet, vous avez repris une citation de mon livre, si derrière un certain nombre d'objectifs, on n'arrive pas à des positions alors absolument contradictoires. Par exemple, en effet, aujourd'hui, être pour la prostitution est qualifié de féministe, être contre la prostitution est qualifié de féminisme, être pour la GPA est qualifié de féministe, être contre est qualifié de féminisme, etc. Il y a même ce féminisme intégral le mot intégral signifie pas qu'on prend en compte tous les enjeux d'oppression des femmes, mais au contraire, on limite le problème des femmes à celui de la maternité et on revient à la vieille formule d'Hippocrate, tota mulier in utero, comme si la femme n'était qu'un utérus. Ouais. Et que quand même, certes, si la question du libre choix d'avoir un enfant a été tout à fait essentielle dans tous les combats féministes et dans tous les pays d'ailleurs, la femme n'est pas qu'un utérus, autrement, bon voilà. Mais si vous voulez, pour revenir à ce que Audrey vient de dire, moi personnellement, en effet, sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord comme concept.
Alors je vous propose justement à ce sujet d'écouter une des femmes qui est dans le livre d'Audrey Célestine, Des vies de combat, portrait de femme. Elle fait partie de ces femmes les plus connues qui sont recensées dans le livre, mais dans ce livre il y a aussi des femmes inconnues mais qui méritent d'être connues. Je vous propose d'écouter Angela Davis qui parlait lors de l'élection présidentielle de 2016 du féminisme d'Hillary Clinton et donc d'un certain type de féminisme. Je vous propose de l'écouter.
Je pense que le féminisme que Hillary Clinton représente est un féminisme étriqué. Il parle aux femmes d'une certaine classe sociale. Et je pense que cette candidate n'a pas su reconnaître les enjeux en termes d'intersectionnalité. La question n'est pas seulement ni en priorité celle du genre, mais comment la question du genre s'articule toujours avec celle de la race, de la classe, de la sexualité et de la nation. Et donc, la question de l'immigration est aussi une question féministe, parce que le féminisme avec lequel je m'identifie considère que la justice est indivisible, qu'il n'est pas possible de se battre uniquement pour un groupe, mais qu'il faut le faire pour tous les groupes qui souffrent de toutes les injustices dans notre société. L'immigration est un enjeu féministe. L'islamophobie, le racisme, l'antisémitisme aussi. Le féminisme doit faire face à ces questions.
And a feminism that refuses to address those issues is more than likely.
Un féminisme qui refuse de s'y affronter est fort probablement enfermé dans des formes de racisme et d'idéologie de classe.
Alors Martine Storti, c'est très exactement ce que vous condamnez dans le livre, ce que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire, je vous cite, une fragmentation et une hiérarchie des analyses et des luttes, en quelque sorte.
Oui, alors, je vais essayer d'être à la fois brève et claire. L'intersectionnalité, si ça consiste à dire que, à constater, à analyser qu'un certain nombre de personnes, et là, parlons de la question des femmes, un certain nombre de femmes subissent plusieurs formes d'oppression, qui peut nier cela? Évidemment, pas moi, en tous les cas. Donc, prendre en compte différentes formes d'oppression et considérer que en effet on peut lutter à la fois pour une émancipation des femmes et que la lutte pour l'émancipation d'une femme victime de racisme, une femme noire par exemple dans un pays où la société est raciste, va évidemment subir plusieurs formes qu'une femme musulmane dans un pays où la religion musulmane serait condamnée, bon, etc., etc. Après, l'extension de l'intersectionnalité est aussi extrême, hein, parce que beaucoup de choses vont intervenir. Les unes vont dire c'est peut-être la grossophobie, les autres telle situation de handicap, etc. Mais enfin, prenons les trois focales, race, classe, genre, qui est la plus utilisée. Ce qu'on constate, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ce que dit Angela Davis est tout à fait clair. Moi, je veux bien qu'on prenne en compte plusieurs formes d'oppression, mais je ne veux pas qu'on noie l'enjeu de l'émancipation des femmes au nom de la grande lutte contre toutes les formes d'oppression. Parce que ça, c'est un vieux discours.
Et parce que vous dites aussi, en faisant cela, la lutte pour le droit des femmes ne progressera jamais, n'avancera jamais.
C'est-à-dire que les enjeux on retourne. C'est une forme de radicalité que moi je qualifie de régressive d'une certaine façon, parce que on revient, qu'on le veuille ou non. Moi, ce que je constate, c'est que l'intersectionnalité, qui doit dire le croisement, dans les faits, aboutit à une hiérarchie des luttes. Et par exemple, sur la scène française, mais pas que française, l'enjeu de la race l'emporte sur les autres. Alors, pourquoi je dis que c'est un vieux discours, d'une certaine façon ? C'est que, bon, on a connu ça, hein, la grande perspective révolutionnaire qui vous disait faut tout prendre en compte, faut prendre en compte toute la lutte, faut changer globalement la société. Une fois qu'on aura fait le changement global de la société, qu'on aura lutté contre l'immigration, contre le capitalisme, contre ci, contre ça, la question des femmes sera résolue parce que la révolution va résoudre tous les problèmes. Et la lutte globale va résoudre tous les problèmes. En fait, non. Hein, ce vieux discours de la gauche révolutionnaire secondarisait la lutte des femmes. Et ce qui s'est passé dans les années 70, dans plusieurs pays, dans de très nombreux pays, et ça, c'est ça le renversement, disons, des mouvements de libération de l'époque, c'est de renverser la proposition. C'est pas de dire, après la révolution, tout ira bien, c'est de dire, pas de révolution sans émancipation des femmes. Nous ne sommes pas le front secondaire. Et à vouloir tout faire en même temps, on risque, et non seulement on risque, mais on le constate aussi, de noyer la question de l'émancipation des femmes. On le voit bien, la lutte antiraciste qui est tout à fait, qui est une lutte évidemment qu'il faut mener, mais aujourd'hui il y a un certain nombre de courants, des coloniaux par exemple, qui font passer la lutte antiraciste avant les autres.
Alors ça, on va en parler dans un instant, Martine Storti. Je voudrais que l'on écoute Audrey Célestine. Aïssa Maïga, qui signe la préface de votre livre, parle à propos des portraits que vous faites de ces femmes noires et libres, note qu'il s'agit d'une intersection entre conditions noires et conditions féminines. Il faut rappeler qu'il y a eu un mouvement qui s'appelait le Black Féminisme, qui aussi parlait d'intersectionnalité. Que me doit-on mettre exactement, selon vous, dans ce mot ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Enfin, d'une part, moi, ce que j'entends dans l'extrait que vous avez passé d'Angela Davis, c'est tout sauf de la fragmentation. Je pense qu'on est plutôt dans le fait d'analyser les choses de façon consubstantielle plutôt que de façon fragmentaire. Dans l'intersectionnalité, comme je le disais, il y a vraiment cette idée que, en fait, pour un certain nombre de personnes, les expériences sociales sont à la croisée de plusieurs choses. Moi, je peux pas distinguer de manière très nette la race et le genre, parce que moi, mes expériences sont celles d'une femme noire qui est envisagée de cette manière-là. Avant même de pouvoir m'identifier de cette manière-là, c'est aussi la manière dont je vais être perçue. Et c'est vrai que la question de l'intersectionnalité, ce n'est pas une espèce de fantaisie identitaire où les gens seraient eux-mêmes en mesure de classer ce qui vient avant, ce qui vient après. C'est que de fait, les dominations qui s'exercent sur ces personnes se font au croisement d'un certain nombre de choses. Et c'est vrai que l'intersectionnalité, une fois qu'elle a été, qu'elle est passée du domaine militant vers le domaine académique, a d'abord été dans les études juridiques, a d'abord été dans des affaires concernant l'affirmative action et concernant les discriminations faites aux femmes noires, parce que finalement on se rendait compte qu'elles les étaient prises en compte ni dans les affaires de jugement du racisme, ni dans les affaires concernant les droits des femmes. Et du coup, je pense que l'intersectionnalité, c'est en fait le contraire de la réification des identités. C'est au contraire de ne jamais prendre les catégories comme étant, voilà, des espèces d'entités complètement réifiées, mais de dire, mais en fait, être une femme noire en ville, en France, c'est pas exactement la même chose que l'être aux États-Unis. Et dire cela, ce n'est pas uniquement une manière de rendre tout éminemment complexe. C'est de fait de situer, de contextualiser vraiment les situations dans lesquelles sont les gens. Ce qui fait que, bah, moi, je pense que pour un certain nombre de femmes, il y a un côté presque inaudible à s'entendre dire, non, mais en fait, il faut mettre ça en avant plutôt que ça. Moi, dans ma thèse, j'ai travaillé notamment sur les mobilisations des portoricains aux États-Unis, et l'une des grandes leaders portoricaines, qui était une femme portoricaine, noire et lesbienne, a caché son homosexualité pendant ses 40 ans de militantisme, parce qu'elle estimait que, bon, bah, ce qui était important, c'était les droits des portoricains, et que finalement, le reste, il fallait le mettre de côté. Mais dans les faits, ça a traduit pour elle le fait de cacher finalement quelque chose qui était essentiel dans sa vie et de ne pas lutter pour des droits qui étaient aussi importants pour elle. Et qui, enfin, du coup, j'avoue que j'ai un peu de mal à ne pas envisager les choses mises ensemble. Et une dernière chose concernant le livre et la remarque faite par Aïssa Maïga dans la préface. Moi, dans ce livre, je voulais montrer à quel point, en ayant un bouquin avec que des femmes noires, on pouvait avoir justement l'universel, parce que l'idée c'était de montrer des singularités, certes une condition noire qui était en partie commune mais qui dépendait du moment, de la période, du pays, du contexte géographique, mais de montrer qu'il y avait des singularités dans les trajectoires de ces femmes, même si dans les manières de répondre au racisme, au sexisme, il pouvait y avoir des formes de résonance. Et pour moi, ces femmes sont des femmes dans lesquelles on peut se reconnaître, qu'on soit une femme noire ou pas une femme noire. Enfin, et donc ça, c'est quand même cette capacité aussi à voir l'universel chez des femmes qui vont se battre en tant que femmes noires.
Martine Storti, c'est également votre avis?
Ah oui,
je vous ai vu réagir à ce que disait
oui, parce que
Audrey Célestine.
Cette vision-là de l'intersectionnalité me convient parfaitement. Bien sûr que le combat d'une femme noire est mon combat, et on peut se reconnaître et dans d'autres combats que les siens propres, première remarque. Deuxième remarque, la contextualisation, oui, bien sûr. Bien sûr que c'est pas la même chose de se battre pour les droits des femmes ou pour telle ou telle lutte en République démocratique du Congo, en Afghanistan, en France, aux États-Unis, etc. Et d'ailleurs, justement, contextualisons. Et la remarque d'Audrey sur la situation des femmes noires aux États-Unis et pas la situation des femmes noires en France, j'aimerais bien qu'un certain nombre de courants politiques, intersectionnels ou décoloniaux en prennent acte. Donc, bien sûr que la contextualiser, complexité, tout ça me convient. Mais quand même, regardons ce qui se passe, par exemple, ce qui se passe en France. Regardez ce qui s'est dit. Deux remarques, quand même. Au moment du débat sur la loi contre le harcèlement de rue. Bon, le harcèlement de rue, c'était de dire, bon, ben, ça suffit, parce qu'il y a eu des combats de femmes contre le harcèlement de rue, on présente une loi. Alors, on peut être en désaccord avec le contenu même de la loi, etc. Mais enfin, moi, ce que je constate, c'est que, par exemple, deux collectifs qui se disent, l'un défense des femmes musulmanes, l'autre afroféministe, qu'est-ce que ces collectifs ont dit à propos du harcèlement? Si vous faites une loi contre le harcèlement, c'est parce que vous visez uniquement les jeunes hommes noirs dans les quartiers. Comme si, c'était incroyable d'ailleurs, au nom de l'antiracisme, finalement, qu'est-ce que disaient ces collectifs? C'était qu'on visait les hommes noirs. Comme si le harcèlement de rue n'était le fait que des hommes noirs, alors qu'on sait que le harcèlement de rue est le fait des hommes de toutes catégories, de tous âges, dans tous les quartiers. Donc vous avez aussi, en effet, aujourd'hui, des gens qui vous disent, alors le harcèlement, c'est que dans les banlieues, il y en a pas chez nous, et puis d'autres qui disent non, le harcèlement, c'est si vous luttez contre le harcèlement, c'est forcément antiraciste. Deuxième remarque, moi je suis absolument à fond contre la pensée en termes d'identité, parce que je pense en effet que c'est une impasse et que hélas aujourd'hui d'ailleurs beaucoup d'affrontements se jouent autour du concept d'identité, autour de la pensée en termes d'identité. Donc sortons de ces enjeux identitaires, mais du côté, encore une fois, de certains courants afroféministes, intersectionnels ou décoloniaux sur la scène française et sur la scène, en tous les cas, européenne, on est en plein dans l'identité et dans l'essentialisation. Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, les femmes non blanches, hein, parce que d'ailleurs, je trouve cette expression absolument épouvantable, les femmes non blanches, alors il y en a qui sont musulmanes de surcroît, qui ne portent pas le voile, certains leur disent, vous êtes traître à votre communauté, vous êtes traître à votre identité. Or, il y a des femmes musulmanes qui portent le voile et des femmes musulmanes qui ne le portent pas. Je vois pas pourquoi l'une serait plus traître à sa communauté que l'autre, sauf si en effet on est dans la pensée en termes d'identité et dans les essentialisations. Alors le mot singularité, juste pardon, mais le mot singularité qui a été employé par Audrey, me convient de manière absolument formidable. Parce que, en effet, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est dans les identités et on n'est pas dans les singularités.
Alors justement, Martine Storti et Audrey Célestine, je vous propose maintenant d'écouter une femme qui suscite toujours des commentaires enflammés, voire des polémiques. Il s'agit d'Ouria Boutelja, du Parti des Indigènes de la République. Alors là, nous sommes dans la mouvance décoloniale qui a aussi une influence dans le féminisme d'aujourd'hui. Nous avons été récupérer ses propos sur le site du pire.
Car il doit être acquis pour tous ici que dans le mouvement décolonial, nous ne pensons pas pour penser. Nous ne pensons pas pour faire carrière. Nous ne pensons pas pour ouvrir des champs d'études dans le monde académique, même si nous nous félicitons de l'existence de ces études. Nous pensons dans une perspective politique. Nous pensons pour nous doter d'outils intellectuels utiles à la lutte et à notre libération. Pour ce faire, il nous importe de combattre l'universalisme blanc et, pour le dire autrement, la prétention du monde blanc à universaliser la lutte pour ses propres intérêts, fussent-ils progressistes. Et c'est entre autres parce que nous avons refusé de considérer, alors là je parle plus précisément du pire, de considérer le féminisme comme un phénomène universel et intemporel que nous sommes ostracisés. C'est parce que nous doutons de l'universalité du féminisme blanc que nous sommes vilipendés. C'est parce que nous avons tenté de replacer le féminisme dans son historicité, dans sa temporalité, dans son espace géographique, bref, parce que nous avons refusé de considérer ce phénomène comme tous les autres, marxisme, communisme, la gauche, la droite, le mouvement LGBT, donc nous avons refusé de les considérer comme une religion, mais bien comme un phénomène social, politique et historique, ancré dans une histoire singulière et spécifique, celle de la modernité occidentale. C'est pour ces raisons que notre parole est criminalisée. Je précise qu'à aucun moment, nous ne remettons en cause sa légitimité, celle du féminisme, ni sa critique fondamentale du patriarcat. Bien au contraire, nous considérons le patriarcat des sociétés modernes comme structurant et le prenons en compte dans l'approche décoloniale. En revanche, nous tenons à penser le genre, la race, la classe et la sexualité à travers une approche décoloniale et dialectique.
Que signifie pour vous, Martine Storti, cette approche dialectique et décoloniale du féminisme ?
Alors, écoutez, dialectique, je trouve que vous êtes un peu généreux parce que
je vois tellement. Je reprends le mot.
Je vois pas tellement où est la dialectique parce que il y a une idéologie décoloniale. Ça serait trop long à refaire.
Oui, c'est un autre débat, effectivement.
Toute l'histoire ici, mais parce que c'est quand même de ça dont parle Ouria Boutelja, à qui de dire la modernité occidentale, c'est le mal, qui commence en 1492 avec la découverte de l'Amérique. Bon. Donc cette modernité occidentale, elle est le mal absolu. Et depuis 1492, ça dure. Donc il faut être contre l'Occident. Tout ce qui vient de l'Occident est mauvais. Et le féminisme, qui en fait partie, est donc aussi condamnable que la modernité occidentale. Donc il faut après faire rentrer la réalité dans cet a priori idéologique. C'est pour ça qu'on lit par exemple, sous la plume d'autres qui se revendiquent du féminisme décolonial, que le féminisme est lié depuis sa naissance à l'esclavage. Alors, on peut lire dans des livres Colombe de Gouges, qui a été guillotiné et qui était auteur donc de la
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Et de la citoyenne. Articulait cette lutte pour les droits des femmes à l'esclavage, alors que tous les textes d'Olympe de Gouges, dans le contexte de son époque, évidemment, elle le dit pas avec nos mots d'aujourd'hui, mais Olympe de Gouges a été tout à fait contre l'esclavage. Donc, mais il faut faire rentrer le réel dans l'idéologie. Donc, on ment, ou on fait des omissions volontaires. Je dis volontaires parce que quand même, l'histoire, on la connaît. Donc, là, il y a un a priori idéologique. Et quand Ouria Boutelja, elle est absolument... La lutte féministe, c'est une lutte dont il faut détourner ceux qui se battent contre cette modernité occidentale. Donc le féminisme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça balaye, c'est l'aveuglement. Qu'est-ce qu'on fait alors de toutes ces femmes iraniennes, tunisiennes, algériennes, turques, qui au XIXe siècle se battaient contre la polygamie, contre le voile, contre le renfermement. Elles étaient pas, c'était pas des femmes françaises ou des femmes des pays colonisateurs. Elles se sont battues. Qu'est-ce qu'on fait alors aujourd'hui des luttes des femmes dans le monde entier contre les mutilations sexuelles, contre en effet tel ou tel aspect de domination croisée? Elles sont pas toutes en Occident et elles seraient toutes prises dans l'idéologie occidentale? Non, c'est leur combat. C'est ça qu'il faut bien comprendre, si vous voulez. Le combat des femmes pour la liberté et l'égalité se contextualise, en effet, à travers les époques et à travers les situations différentes. Et c'est leur combat. Le mot liberté, c'est pas un mot occidental. C'est un mot qui s'est universalisé. C'est universel. Elles se battent pour la liberté. Pourquoi elles se battent, Nasrin Sotoudeh? Elles se battent pour la liberté des femmes. Pourquoi les femmes qui, moi, j'ai bien connu la coordination des femmes noires dans les années 70. Voilà un mouvement qui était intersectionnel, même si on n'utilisait pas le terme. Qu'est-ce que dit Awatiam dans son livre La parole aux négresses? C'est qu'il y a un patriarcat universel. Et comme il y a un patriarcat universel, les combats des femmes se battent contre le patriarcat. Mais évidemment, chaque patriarcat, si je puis dire les choses comme ça, s'incarne. Encore une fois, il ne se joue pas de la même façon selon les histoires, les cultures, les religions. Mais Awa était dans un combat qu'elle qualifiait d'universaliste et qui était de dire, on se bat contre le patriarcat universel. Et alors le patriarcat universel, évidemment, s'exerce, pour employer ce verbe, différemment ou de multiples façons, si on est en plus une femme noire, si on est en plus pauvre, si on est en plus lesbienne, si on est en plus ci, si on est en plus ça. Mais c'est toujours le même combat, liberté, égalité, des principes politiques, pas des valeurs, parce qu'on parle beaucoup des valeurs de la République. Moi je dis revenons aux principes politiques.
Audrey Célestine, que signifie pour vous cette interprétation décoloniale du féminisme, vous qui étudiez aussi ce sujet?
Alors, plusieurs choses. Moi, je pense que déjà de faire d'Ouria Boutelja la grande représentante du mouvement décolonial, c'est quand même un problème. Enfin, je veux dire, le mouvement décolonial, c'est quand même quelque chose de bien plus riche et qui dépasse largement la personne d'Ouria Boutelja et ce qu'elle peut en dire. Il y a toute une généalogie intellectuelle qui arrive jusqu'aux penseurs d'Amérique du Sud, etc. Enfin, je veux dire, on est quand même... Donc, je pense que la déconsidération qu'il peut y avoir autour de la perspective décoloniale doit beaucoup effectivement à Ouria Boutelja. Mais du coup, je pense que c'est important de ne pas faire comme s'il s'agissait là d'un espèce de tout unifié dont elle serait une des grandes représentantes. Ensuite, à l'intérieur même des mobilisations, notamment afroféministes, y compris contemporaine. Enfin, je veux dire, la critique de ce type de discours, elle est importante. Enfin, je pense que il y a vraiment une importance à sociologiser un peu. Je suis désolée, je fais un peu ma prof de sciences sociales, mais à sociologiser un peu l'ensemble de ces mouvements, de voir que tous les groupes ne disent pas exactement la même chose et qu'en aucun cas, Ouria Boutelja n'est la représentante de l'ensemble des femmes qui mettent en avant les expériences sociales qu'elles vivent en tant que femmes noires, femmes identifiées comme ceci ou cela dans le contexte français. Enfin, donc ça, je pense que c'est quand même important de le signaler. Moi, j'ai tout un tas de collègues qui sont dans des perspectives décoloniales sur tout un tas de sujets, et on est quand même à milieu d'Ouria Boutelja. Donc c'est quand même une chose que j'aimerais que je pense qu'il est important de préciser. Voilà. Donc moi je suis un peu atterrée, en fait, assez fatiguée de tels jugements sur des jeunes femmes qui se battent. Et si elles se battent, c'est parce qu'elles politisent une expérience qui est celle d'être des femmes noires dans un contexte français, dans un pays qui est le leur, et qu'elles rencontrent des formes importante de discrimination et de racisme tout au long de leur vie, et que se constituer ensemble en groupe afroféministe est la seule réponse qu'elles ont trouvée à ça. Et ça, je pense que c'est important, et que la question qui est à poser au départ, c'est la manière dont ce pays traite une partie des enfants. Enfin, je veux dire, l'idéal universaliste, tout le monde y croit. Enfin, je veux dire, et tout le monde en a bien envie, mais dans la pratique, il est beaucoup plus difficile à atteindre pour certains que pour d'autres.
Martine Storti, quelle est votre réaction à cette... ce coup de colère d'Audrey Célestine?
Non, mais moi, son coup de colère, moi aussi j'ai des coups de colère, hein, parce que, en effet, il ne faut pas caricaturer. n'y a pas que Uriah Boutelja, en effet. Moi, par exemple, dans mon livre, je consacre très très peu de pages, une page ou deux, pas plus, à Uriah Boutelja. Mais en revanche, si je lis le livre de Françoise Vergès pour Un féminisme oui. décolonial, encore une fois, ce qu'elle raconte est faux. Je veux dire, les réécritures de l'histoire, vous savez, c'est comme quand on gommait sur la photo un tel ou un tel, parce qu'entre-temps, on l'avait fusillé, on lui avait coupé la tête. Les réécritures de l'histoire, qui consistent à dire, par exemple, que les féministes des années 70, et donc toutes les féministes blanches après les années 70, parce qu'elles sont blanches, ont été pas du tout intéressées à la coordination des femmes noires, ou sont tout à fait indifférentes au racisme, et même elles sont peut-être complices du racisme, ça on le lit, vous comprenez, dans un livre qui se dit pour un féministe décolonial, et je regrette, on le lit aussi sur énormément de tweets, énormément de tracts, énormément de textes, qui émanent d'un certain nombre de courants militantisme décoloniaux, intersectionnels, etc. En tous les cas, moi, de toute façon, dans mon livre, je suis très claire, je distingue décolonial et intersectionnel, mais je dis qu'il y a un usage aussi militant de l'intersectionnalité qui est que l'on peut combattre parce que, encore une fois, il prend pas en compte justement la complexité. Donc, quand même, l'idée que la modernité occidentale, c'est le mal. En effet, tout cela vient d'un certain nombre, d'un cheminement intellectuel qui émane de l'Amérique latine, etc. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est une conception qui est reprise par toute la mouvance décoloniale, quels que soient les livres et quels que soient les auteurs. Deuxièmement, moi je ne parle pas de racisme anti-blanc, parce qu'en fond ça ne m'intéresse pas tellement, mais ce que je dis c'est qu'en effet il y a une essentialisation. Toutes les femmes féministes blanches ne pensent pas la même chose. Toutes les femmes noires ne vivent pas la même chose. Tania de Montaigne en est un exemple. Elle récuse absolument l'essentialisation et elle qualifie même de raciste cette essentialisation parce qu'il y a femmes noires et femmes noires. Il y a féministes blanches et féministes blanches. D'ailleurs moi je ne suis pas une féministe blanche. Je suis une femme blanche qui est féministe. Il n'y a pas de féminisme. Vous prenez l'idée qu'il y a un féminisme blanc, un féminisme noir, un féminisme musulman, un féminisme juif. Non, il y a des femmes juives qui sont féministes et puis d'autres qui ne le sont pas. Il y a des athées qui sont féministes, il y a des blanches qui sont féministes, il y a des noirs qui sont féministes. Ça ne veut pas dire en effet que c'est tout à fait la même chose.
Et j'ajoute qu'il pourrait peut-être y avoir des hommes féministes aussi.
Et il peut y avoir des hommes féministes, il n'y en a pas assez. Mais il y en a certains et d'ailleurs, il y a toute une histoire philosophique, en effet, de la question des femmes dans la philosophie. Bon, je vais pas développer ça. Donc, n'homogénéisons ni les unes ni les autres. Critiquer l'idéologie décoloniale, ça n'est pas gommer les combats que mènent un certain nombre de femmes noires. Donc, homogénéisons personne. Alors, moi, je suis en effet d'accord. Je ne suis pas du tout, d'ailleurs, mon livre essaie de mettre à distance deux choses. D'une part, en effet, un féminisme qui va être en fait le procès du féminisme blanc, ça je le mets de côté, mais je mets autant de côté l'instrumentalisation du féminisme à laquelle on assiste depuis plusieurs années, par l'extrême droite et par une partie de la droite. Rabattre le féminisme sur l'identité française, je trouve que c'est tout à fait inadmissible.
C'est ce que vous appelez le national féminisme.
Le national féminisme, parce que, en effet, il y a des gens qui vous disent, voilà. Alors, c'est ça ce que j'appelle la double occidentalisation. Il y a des gens qui vous disent, l'égalité femmes-hommes, c'est l'identité occidentale, et ils s'en félicitent, c'est-à-dire qu'ils gomment tous les combats qui ont été menées pendant des siècles et pendant des décennies pour en effet aboutir à des formes d'égalité et de liberté des femmes, à une émancipation des femmes qui n'est pas encore achevée, loin de là, et même y compris en France, et loin de là si on regarde le monde entier. Donc je mets ça de côté, mais je veux mettre à distance en effet autant ceux qui disent « Ah, c'est l'Occident, donc c'est le mal ». Je veux dire, c'est ni le bien ni le mal. Et c'est pas l'Occident. Encore une fois, il y a des femmes depuis des siècles qui se battent dans tous les pays. Et en ce moment, de manière extrêmement importante, et encore une fois, au risque de leur vie, etc. Donc, j'essaie de prendre en compte ça. J'essaie de regarder... Au fond, si je devais écrire un article, j'écrirais... il faut voir avec ses deux yeux. Hein, parce qu'il y a les deux. Hein. Il y a... Et donc, mettons à distance les deux et essayons de tracer un autre chemin. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec beaucoup de tristesse, En tous les cas, provisoirement, je récuse le terme universalisme, parce qu'en effet, l'universalisme peut être abstrait, et donc c'est pas intéressant. Deuxièmement, il est idéologisé et instrumentalisé, et donc je prends plutôt le mot universel. Alors, je connais les procès qu'on peut faire universel, et les femmes sont bien placées pour le savoir. Quand le suffrage était universel, alors qu'il était que masculin, donc sortons l'universel de ces mensonges, en effet. Sortons d'une instrumentalisation idéologique et regardons ces manières différentes de s'y prendre, mais avec des objectifs qui sont les mêmes, liberté, égalité. Et l'intersectionnalité doit prendre en compte, en effet, la liberté et l'égalité.
Et vous parlez également, Martine Storti, de l'irréductibilité de la lutte. Vous écrivez « La lutte des femmes pour leur émancipation est une lutte spécifique, réductible à aucune autre ».
Oui, parce que je pense que, en effet, les femmes peuvent... toutes les luttes, d'ailleurs, prenons les luttes des coloniales, elles l'ont bien montré, prenons les Algériennes. Hein. Les Algériennes étaient... Beaucoup de femmes algériennes ont participé à la lutte contre, à juste titre d'ailleurs, contre la colonisation française. Et puis une fois que l'indépendance a été obtenue, qu'est-ce qu'on leur a dit ? On leur a dit, vous rentrez à maison. Regardez ce qui s'est passé en Iran en 1979. Les femmes se sont battues contre le Shah. Elles étaient tout à fait en nombre très important dans les manifestations contre le Shah à la fin des années 1978 et au début de 1979. Le Shah est arrivé en Roménie, et l'une des premières décisions que prend l'imam Roménie mars 79, c'est de dire les femmes doivent se voiler, les femmes doivent porter le tchador. Et elles descendent par milliers dans les rues de Téhéran. Les mêmes qui étaient allées dans les rues de Téhéran pour souhaiter le départ du Shah redescendent dans la rue contre le tchador. Je le sais, j'y étais. Moi, je suis allée en mars, j'étais journaliste à Libération à l'époque, je suis allée en mars 79, je suis restée plusieurs semaines en Iran, j'ai assisté à la campagne pour la République islamique, etc., etc. Et les femmes, là, ont perdu. Et après, d'ailleurs, beaucoup sont repartis, ont été obligés de quitter leur pays. Et voyez les combats qui se mènent aujourd'hui en Iran, et on en parlait avec Nasrin Sotoudeh, etc. On pourrait multiplier les exemples. Donc, moi, je veux bien qu'on prenne en compte plusieurs combats. Mais en tous les cas, ce que je constate historiquement, c'est qu'à chaque fois que les femmes prennent en compte plusieurs combats et ne construisent pas leur mouvement autonome, eh bien, elles sont perdantes. C'est pour ça que c'est très intéressant, pour reprendre l'exemple de l'Algérie, ce qui s'est passé l'année dernière dans les manifestations en Algérie. Les femmes, les féministes, ont fait des carrés féministes. Elles participaient à la manifestation globale contre le gouvernement, etc. Mais sur leurs revendications propres et s'organisant en ce qu'elles ont appelé les carrés féministes. Ça veut dire que quand même, le souvenir, la connaissance de l'histoire et le souvenir de l'histoire, ça existe, parce que là, elles ont compris. Il faut qu'elles se battent sur leur propre terrain aussi.
Et vous nous donnez un exemple concret de ce que peut signifier un féminisme universel. Martine Storti, vous écrivez « Quand je parlais en Afghanistan, à Kaboul, comme dans un village de montagne éloigné de la capitale, avec des institutrices de la nécessaire et juste scolarisation des filles, qu'elles et moi nous débattions des besoins en construction d'écoles, elles et moi nous partagions une expérience commune, nous étions des sujets unis dans une cause commune et universelle. »
Merci de citer cet extrait, parce que, en effet, je l'ai prouvé beaucoup de fois, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Kosovo, que ce soit dans différents pays africains, que ce soit dans des pays asiatiques. Je veux dire que sur ce combat-là, celui des femmes, là, c'était l'éducation des filles. Très, très important, l'éducation des filles. Vous voyez, ces femmes qui avaient, ces institutrices, qui avaient continué à enseigner aux filles, malgré l'interdiction, dans des caves et clandestinement, au risque de leur vie, qui, une fois le départ des talibans acquis, dès le mois de janvier, dans des conditions matérielles absolument épouvantables, se remettent à enseigner, là, officiellement et publiquement aux filles, et moi j'étais aussi une prof avec une féministe, mais elles aussi étaient féministes dans cet enjeu d'éducation des filles, si vous voulez. Et donc voilà, il y a un nom commun des femmes sur l'avortement. Pourquoi l'avortement a été une lutte finalement qui a gagné? Parce que la question de la grossesse non désirée, c'est une question qui concernait toutes les femmes, par-delà les différences de classe. Alors même celles, évidemment, les plus riches pouvaient aller se faire avorter en Suisse ou en Angleterre, et les pauvres avec la faiseuse d'ange. Mais toutes les femmes ont eu peur de la grossesse non désirée. Comme toutes les femmes ont peur du viol, ont peur des violences sexuelles. Alors, ça se joue plus pour les unes, pour les autres, de manière, une fois contextualisée. Mais c'est ça, l'encombre des femmes. C'est la cause que je plaide.
Martine Storti, j'imagine, Audrey Célestine, que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Martine Storti.
Alors, je suis d'accord, mais sur le dernier exemple, qui est à mon avis très, très important, je pense que, enfin, par exemple, moi je viens de Martinique, et il y a tout un tas de politiques qui ont été mises en œuvre en Outre-mer, au moment où les femmes en France hexagonale se battaient pour avoir accès à la contraception et à l'avortement, des campagnes étaient organisées. En particulier à La Réunion, il y a une très belle thèse de Myriam Paris sur le sujet, où on a stérilisé tout un tas de femmes dans la France contemporaine des années 60, ce qui veut dire que malgré tout, à un moment donné, c'est important à une même période, pour un ensemble national donné, de voir que le droit en commun sur lequel on devait se battre, c'est effectivement la possibilité de disposer de son corps, de ne pas être forcé à la stérilisation d'un côté, quand on est empêché de disposer librement de son corps de l'autre côté. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, mais j'aimerais indiquer pour vos auditeurs et vos auditrices, parce que c'était un moment important. En mars dernier, il y a eu un très beau colloque à Paris sur les féminismes noirs avec un point d'interrogation qui était mis en place par plusieurs chercheuses, dont Cyliane Larcher, Myriam Paris, un certain nombre d'autres. Toutes les vidéos de ce colloque sont en ligne. Et si vous voulez, on est dans quelque chose d'un petit peu plus complexe, un petit peu plus sophistiqué que le décolonial version indigène de la République. On est dans, avec un certain nombre de chercheuses africaines, nord-américaines, caribéennes, et où on voit poser la question des féminismes noirs qui ne sont pas envisagés uniquement comme des mouvements identitaristes, mais comme une manière d'envisager comment à La Réunion, en Afrique subsaharienne, comment en Martinique, comment aux États-Unis, comment dans tout un tas d'endroits dans le monde, comment en France, pour un certain nombre de jeunes femmes françaises, se pose la question d'un féminisme noir qui n'est pas qu'un dévoiement du vrai féminisme, et qui est aussi des questions qui se posent pour des femmes qui ne trouvent pas de réponse satisfaisante dans les mouvements tels qu'ils existent ou sont présentés ou sont représentés. Vous voyez, moi je suis complètement d'accord avec, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle La Fabrique des Identités, je suis anti-essentialiste au possible, mais je pense qu'on peut décaler aussi un petit peu le débat et de voir les formes d'assignation qui s'exercent sur un certain nombre des femmes de ce pays notamment.
Merci Audrey Célestine, merci pour ce conseil à propos du colloque. Vous avez écrit Des vies de combat, femmes noires et libres, un livre publié aux éditions de l'Iconoclaste. Martine Storti, rapidement.
Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a sûrement plusieurs féminismes noirs. Alors, je demande la même chose pour ce qui s'appelle, ce que certaines féministes noires appellent le féminisme blanc. Le féminisme blanc, ça n'existe pas. Il n'y a pas plus de féminisme blanc que de féminisme noir. Il y a plusieurs manières d'être féministe quand on est blanche. Il y a plusieurs courants. Place aux singularités, place aux subjectivités. Sortons des identités, en effet, et sortons des homogénéisations. C'est exactement ça que j'essaie de faire dans mon livre.
Merci Martine Storti, livre qui s'intitule « Pour un féminisme universel » publié au Seuil dans la collection prestigieuse « La République des idées ».
Merci à vous.
Idées, un magazine réalisé évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ce magazine en balado-diffusion après l'avoir téléchargé sur notre site www.rfi.fr. Vous pouvez aussi vous y abonner. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.